Père Pedro, vous avez dit un jour, je demande à l'Esprit Saint de ne jamais trahir les plus pauvres. D'où vient votre attachement aux pauvres?
Elle vient de l'Évangile. Elle vient de ma lecture à partir de mon adolescence, de mon enfance même. Elle m'a tellement frappé, cette figure de Jésus dans l'Évangile, son travail, son amour, son humilité, sa simplicité. Elle m'a tellement ébloui que je me suis dit, je veux suivre Jésus. Et le suivre surtout dans cette évangélisation des pauvres. Et voilà que la Providence a aussi voulu que je sois dans la congrégation des Saint-Vincent de Paul, qui était un des pionniers au XVIIe siècle de l'aide aux pauvres, mais une aide où il y a dignité, se mettre en valeur la personne humaine, le pauvre.
Et alors, vous arrivez à Madagascar?
J'ai dit que je suis né deux fois. Une fois en Argentine, en 1948, justement l'année de la proclamation des droits de l'homme. Et je suis aussi né une deuxième fois à Madagascar. Parce que quand je suis arrivé à Madagascar à 22 ans, c'était tellement différent de tout que je dis, ben ici c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Il fallait tout apprendre, la langue, les traditions, la mentalité, les coutumes, tout. Et ce peuple de Madagascar, il m'a reçu un ami, un frère. C'est un peuple vraiment d'une bonté naturelle extraordinaire que malheureusement aujourd'hui, à cause de la pauvreté, dans les grandes villes, ça change un peu. Mais en général, un peuple extraordinaire, le peuple de Madagascar, je dis, c'est là où je veux vivre mon engagement pour les plus pauvres, mon engagement évangélique. Quand vous venez dans un autre pays, il faut que vous laissiez tout votre bagage, même votre culture, quand c'est possible, et vous identifiez à la nouvelle culture. Ce n'est pas facile. Le temps a joué à notre faveur, avec des hauts et des bas, avec beaucoup de souffrances, des douleurs physiques, parce qu'on était souvent malade, hein, par le paludisme, mais aussi par tant d'autres maladies tropicales. Eh bien, nous sommes restés debout, grâce à Dieu, grâce à la force de Dieu, à la force de l'Évangile, on est restés debout. Et là, vous commencez notre vie, parce qu'à ce moment-là, vous ne cherchez plus l'efficacité, vous cherchez vraiment aller au fond de l'âme de votre frère. Et quand vous allez au fond de l'âme, par cette relation unique que vous devez vous-même créer de toutes pièces, là, sur place, eh bien là, le cœur s'ouvre et une aventure spirituelle extraordinaire commence. Et c'était le cas de Kamasou.
Alors Kamasoa, ça a commencé quand ?
15 ans après.
15 ans après.
C'était pas quand j'étais fort, quand je voulais réussir. C'est pas là. C'est quand j'étais malade, quand j'ai touché terre, quand j'ai dit peut-être je pourrais plus rien faire ici. Eh bien, c'est à ce moment-là que la Providence m'a poussé dans une décharge. Parce que j'étais mangé dans l'intérieur par des parasites de tout genre. J'étais nerveux, j'étais mal. Je voyais le peuple qui n'avançait pas, qui devenait chaque fois plus pauvre. Alors il y avait une crise spirituelle, humaine, morale, tout en même temps, même physique. Et voilà, à ce moment-là, quand vous étiez faible, voilà que la Providence m'a poussé dans une décharge. J'ai vu dans cette décharge des enfants et des familles entières qui vivaient des déchets, des ordures. Alors là, j'ai subi un électrochoc. C'est pas vrai ce que je vois. Comment c'est possible des enfants si beaux, si jolis, comme des anges? Je dis, comment ils puissent être là dans ces ordures-là? Alors là, j'ai dit, mon Dieu, aide-moi. Il faut aider ces enfants. Alors là, j'ai passé une alliance avec Dieu. Le soir, je passe une alliance avec Dieu. J'ai dit, Dieu, aide-moi, donne-moi la force. Mais il faut sauver ces milliers d'enfants et ces familles. Et voilà que cette aventure a commencé. Personne ne savait rien. On commençait d'une façon insignifiante, sans argent, sans être connu. Et voilà. Mais je savais déjà parler malgache, comprendre l'âme de malgache. C'était la clé pour commencer ce travail. À partir de là, j'ai recommencé à prendre force. J'ai commencé à prendre le vol aussi.
Les pauvres ont changé votre vie?
Mais bien sûr, bien sûr.
C'est pas vous qui avez changé leur vie?
Non, c'est eux. Mais voilà, c'est ça la vraie conversion. Hein. C'est que sans les pauvres qui vous changent. Quand vous laissez aller avec la force de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de l'Évangile, vous allez dans la bonne direction. Et c'est l'essentiel. Quand vous allez dans la bonne direction, il faut persister et attendre les moments. Et il y avait après tout le temps des choses extraordinaires qui se passaient.
Hein? Alors racontez un peu les débuts.
J'ai les gens qui me disent, mais qu'est-ce que tu cherches, toi, le blanc? Je dis, parlez avec vous. Il dit, parle. Mais je dis, mais on ne parle pas debout au milieu de la rue. Mais il dit, tu vas entrer dans cette cabane de carton et de plastique d'1,30 m d'hauteur. Je dis, si tu entres, j'entre derrière toi. Il est entré dedans et je lui dis, écoute, dans cette cabane de plastique, de carton, 1,30 m d'hauteur, c'est là où est né Kamasou. Parce que j'ai dit, écoutez, je vois beaucoup d'enfants. Ici, les enfants sont malades, ils meurent. Est-ce que Vous n'avez pas ici un comité entre vous, parce que les Malgaches, ils ont une richesse ancestrale très importante, ils savent s'unir, même s'ils sont pauvres. Il dit oui, tu peux les appeler. Il est allé les appeler, il a amené une douzaine de personnes. Et là, assis par terre, je les ai dit, écoutez, je suis un prêtre, je n'ai pas d'argent. Mais si vous voulez travailler, si vous voulez scolariser les enfants, et si vous êtes d'accord à vivre une discipline, on va s'en sortir. Et pour vos enfants qui ont droit à avoir un avenir, à avoir un futur, j'ai beaucoup insisté sur leurs enfants. Eh bien, ils me regardaient un peu comme un illuminé qui est tombé du ciel, parce que des promesses, ils en ont entendu. Mais ils disent peut-être une de plus. Mais je revenais. Et à la fin, ils ont dit, mais peut-être qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Et vraiment, peut-être qu'on pourra réaliser. Voilà qu'ils se sont mis au travail. Et on a commencé jour après jour, le travail augmentait, la confiance grandissait, l'espoir grandissait, les gens devenaient de plus en plus nombreux. Et les moyens arrivaient jour après jour. On n'a jamais eu trop d'aide, juste le nécessaire pour continuer. Eh bien, les experts venaient, quand ils voyaient une grande foule de gens qui s'est rassemblée autour de nous, ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Mais je dis, aidez les gens. Mais vous savez ce que vous faites? J'ai dit, bien sûr. On les sort de la rue, on les sort d'une décharge. Et les enfants vont à l'école, les parents qui étaient des mendiants vont au travail. Et aujourd'hui, on se respecte ici. On se bagarre plus, on s'insulte plus. Il a fallu des réunions communautaires, des paroles avec des personnes en particulier. Dieu seul sait combien de milliers de fois il fallait réunir les gens. Mais à la fin, c'est payante. Moi, ce qui est extraordinaire de cette aventure-là, c'est que c'est eux qui se sont réveillés. Et ils ont pris après la responsabilité. Et ils ont dit, oui, maintenant, on a compris que c'est nous les premiers responsables de nos enfants. Aujourd'hui, je suis entouré de 410 jeunes malgaches, médecins, professeurs, instituteurs, institutrices, ingénieurs, techniciens, assistantes sociales, tous malgaches. Je dis, merci mon Dieu de m'avoir fait trouver ces jeunes qui aiment leur pays et qui se donnent pour leur peuple, pour leurs enfants. Et ça marche. Et aujourd'hui, sans vouloir, nous sommes devenus une référence.
Est-ce que vous êtes toujours sur le terrain, Pedro?
Bien sûr, bien sûr. Je sors de Madagascar 2-3 semaines, 3 fois par an. Je passe au moins 10 mois à Madagascar pour le moment. Je suis toujours parmi les pauvres parce que je ne dois pas perdre le contact avec les pauvres. Les jours que je perdrai le contact avec les pauvres, eh bien, ça va être le commencement de ma descente. J'ai dit, les jours que nous n'aurons plus le temps d'écouter les pauvres, eh bien, sachez que c'est le début de la fin pour nous. Mais jusqu'au jour où nous saurons écouter, accueillir les plus pauvres, eh bien, nous aurons toujours l'espoir de continuer ce combat et cette aventure de Dieu.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui veulent participer à votre œuvre?
Mais je dirais que d'abord, il faut qu'il y ait un état d'esprit, qu'on ne vient pas là pour aider. Il faut servir. Le mot, c'est service. Ce n'est pas tellement venir faire un travail et se sentir utile. Non, d'abord, c'est venir, est-ce que je peux servir. Et qu'il faut commencer par servir ici, parce qu'il ne s'agit pas d'aller servir les pauvres d'Afrique, de Madagascar, en pensant qu'ils sont gentils, sont obéissants. Ce pauvre-là n'existe nulle part dans le monde. Un pauvre, c'est un pauvre. C'est un humain avec des qualités et des défauts. Mais il est pauvre. C'est pour cela qu'il faut l'aider. Et je dirais à tous ceux qui veulent nous aider, faites un peu de justice. Dites à vos amis, partageons un peu. La paix de notre terre dépendra du partage que nous allons faire. Si l'aide publique au développement de l'Europe est toujours si pauvre, si petit par rapport aux besoins, il n'y aura pas de paix. Alors, je ne cherche pas beaucoup de personnel, je cherche des aides financières. C'est pour cela que les gens de bonne volonté qui m'écoutent, sachions partager et faisions autour de nous une campagne pour ce partage juste et équitable. Ce n'est pas équitable ni juste quand le niveau de vie de la France est 120 fois supérieur à celui de Madagascar. Et si on dirait qu'en Europe, quelqu'un a 120 couvertures, il n'en a pas besoin de 120 couvertures. Et j'ai une seule couverture. J'ai froid. Je demande, donne-moi une couverture. Ben, je dis, j'ai encore 119. Mais on n'en a pas besoin non plus, 119. Alors, c'est pour cela que le partage aujourd'hui est nécessaire. Les gens veulent partager. Je le vois à Kamassou. Quand les gens voient que leur argent est bien utilisé pour les pauvres, les gens veulent donner parce que les gens sont généreux. Qui peut être tranquille? Qui peut être en paix avec soi-même quand vous voyez des enfants avec des gros ventres, des enfants qui ont faim? On doit donner à manger un enfant. L'enfant, il est victime de cette pauvreté. Quelqu'un doit les donner à manger. Manger, c'est un droit de l'homme, c'est un droit de l'enfant. Nous devons vaincre ce scandale. Nous devons éradiquer, si possible, ce scandale. Seulement par la solidarité, seulement par le développement et aussi par le partage. Tout est possible. Nous pouvons vraiment diminuer la pauvreté fortement. Mais il faut s'attaquer aux vraies causes. Et il faut que nous ayons la volonté et la persévérance. Et il faut que ceux qui dirigent le pays en Europe soient plus conséquents à l'aide qu'ils ont promis. Quand le G8 y a promis des milliards qui ne sont jamais arrivés en Afrique, eh bien qu'ils accomplissent leurs paroles et leurs promesses. Et dire aussi à ceux qui dirigent l'Afrique et le peuple d'Afrique qu'ils soient plus responsables. Que les aides arrivent aux plus pauvres des pauvres. Parce que si on n'arrive pas à arrêter cette pauvreté, il n'y aura pas la paix. Et nous voulons tous la paix. Et la paix est possible. Mais il faut s'impliquer, il faut s'engager, il faut y croire.